Cause à effet, le magazine de l'environnement.
La montagne d'or, le projet de mine.
Moi, je suis contre. Parce que les bénéfices, c'est pas pour nous. Après, on va se retrouver comme en Afrique.
Faut pas se leurrer, faut pas être dupe. Hein, parce que ça va pas générer tant d'emplois que ça. Ce dont je suis pratiquement sûre, c'est que quand même notre forêt va en prendre un coup. Et ça, quoi que disent certains, indéniablement, la forêt guyanaise va encore être impactée et il ne sera rien fait pour la réparer.
Il y a 200 000 tonnes de métaux lourds qui vont être sorties des entrailles de la terre par les manipulations qui vont être faites pendant les 12 années d'exploitation de cette mine. Ces 200 000 tonnes, dont 13 000 d'arsenic, c'est quand même quelque chose de faramineux. Et là-dessus, ils sont incapables de nous dire qu'est-ce qu'ils vont faire et comment ils vont gérer l'affaire.
La montagne de la discorde, c'est l'histoire d'une mine d'or en Guyane, devenue un dossier controversé qui repose sur la table du ministre de l'Environnement. La montagne d'or, ce projet de mine d'or à ciel ouvert, mené par le groupe russe Norgold, associé au Canadien Columbus Gold, suscite crispation, manifestation, opposition et dénonciation. Il s'agit de l'exploitation d'une mine aurifère à partir de 2022 au sud de Saint-Laurent-du-Maroni, en forêt tropicale. Un projet qui s'annonce pour certains comme un scandale économique et une catastrophe écologique et environnementale. Le sujet a été débattu entre avril et juillet 2018 à la CNDP, la Commission nationale du débat public, qui a rendu ses conclusions en septembre. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a demandé que le dossier soit repris. Est-ce véritablement un non-sens économique doublé d'un écocide ? Que peut-on en attendre de positif pour cette partie du territoire français touchée par le chômage ? Que doit-on redouter sur le plan environnemental et pour les populations locales ? Pour en discuter, nous accueillons aujourd'hui en studio Isabelle Autissier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes navigatrice, écrivaine et présidente du WWF France. Hilaria Casillo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de la Commission nationale du débat public, chercheuse et maître de conférences à l'École d'urbanisme de Paris. Et à nos côtés, Martine Vallot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux pages Planète Science du journal Le Monde, notre partenaire. Une heure ensemble pour comprendre les dessous du dossier et les enjeux pour les Guyanais. Dans cette émission préparée par Anaï Morales, émaillée de reportages de Véronique Reberotte, et le tout avec la complicité de Anne Gouzon, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Jean-Michel Bernaud. Bonjour à tous et bienvenue.
Pour extraire 1,6 g d'or, il va falloir à chaque fois une tonne d'explosifs, une tonne de cyanure. Donc c'est plus le projet Montagne d'or, c'est un projet qui va générer des montagnes et des montagnes de déchets extrêmement dangereux, un projet qui se fait au détriment de la forêt et un projet qui se fait grâce à une montagne de subventions publiques. 420 millions d'euros de subventions publiques pour créer 750 emplois. Donc on est d'abord dans un projet de destruction de la forêt, un projet extrêmement dangereux du point de vue des pollutions, notamment des pollutions au cyanure, et un projet finalement cynique puisqu'il s'agit, dans un département qui est très souvent oublié par la République, il s'agit de dire vous avez des revenus très faibles, vous avez beaucoup de chômage, la seule perspective qu'on vous propose c'est la destruction de votre forêt pour créer quelques emplois.
C'était Yannick Jadot au micro de Véronique Reberotte, donc Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts. Isabelle Autissier, peut-être un petit rappel quand même de ce projet, on a commencé à le comprendre dans cette introduction d'émission, mais de quoi parle-t-on ? Donc un Eldorado aurifère de 800 hectares.
Oui, on est en plein cœur de la forêt amazonienne, hein. On est très loin dans la forêt, donc déjà le premier impact énorme c'est qu'il faut faire une route, et quand on fait une route, c'est aussi malheureusement la route pour les braconniers, la route pour un certain nombre d'opérations diverses et variées, on va dire. On est à un jet de pierre d'air protégé, dans lesquels il y a des centaines d'espèces que nous essayons désespérément de faire survivre et qui évidemment vont se trouver considérablement impactées parce qu'il y a non seulement l'endroit où on va faire la mine qui va être totalement dévastée, mais on imagine bien que les environs de la mine, avec les bruits, avec les gens qui vont arriver, qu'il va falloir installer, avec les trafics qui vont se faire, forcément la biodiversité va en prendre un coup énorme. Et puis, des centaines de millions de tonnes arrachées dans cette mine à ciel ouvert, avec, moi je l'ai quand même noté, 57 000 tonnes d'explosifs, 46 000 tonnes de cyanure, qu'on va promener en pleine forêt, qu'on va accumuler là-bas pour s'en servir, et qui après vont produire des résidus, dont on nous assure que ce sera parfait, qu'on aura des bassins de rétention qui seront parfaitement étanches, et on sait que dans très nombreux pays, à de très nombreux endroits, on a eu des soucis, on a eu des problèmes, on a eu des infiltrations, voire carrément des barrages qui ont cédé. Et là, on a des catastrophes environnementales et des catastrophes sanitaires et des catastrophes économiques. Donc, on est vraiment sur un sujet de grande ampleur pour la Guyane.
Martine Vallot, on peut peut-être effectivement préciser, hein, Isabelle Autissier laissait entendre que c'est quand même une zone aussi où il y a une biodiversité exceptionnelle, la Guyane, donc une superficie de 86 000 km² qui renferme 50% de la biodiversité française au cœur de sa forêt primaire, et cette forêt primaire qui couvre 95% du territoire, et donc des réserves naturelles, des espèces méconnues, d'autres protégées, en tout cas une faune et une flore exceptionnelle, hein, il faut bien le préciser, une richesse de premier plan.
Oui, alors on peut rappeler que pour la France, les DOM sont le lieu essentiel de la biodiversité qui fait que la France se distingue, qui fait aussi qu'elle a des responsabilités propres à cet égard. On peut citer évidemment la Guadeloupe ou la Martinique qui à elle seule présente une diversité d'une richesse incroyable et néanmoins qui ont fait l'objet, comme on le sait, de scandales sanitaires, de pesticides largement déployés sur les bananeraies qui vont se payer pendant des siècles. On peut se demander quel regard la France métropolitaine porte sur ces territoires d'outre-mer qui sont si riches. Je pense aussi évidemment à la Nouvelle-Calédonie où on compte énormément de mines de nickel qui posent problème jusque dans les mangroves et dans les récifs coralliens.
On est loin de la France, loin de l'Hexagone, donc peut-être qu'on se permet plus de choses, Isabelle Autissier.
Oui, je pense que je ne vais pas dire qu'il y a des reliants coloniaux, mais quand même un petit peu. Et effectivement, dans ce qu'a dit Yannick Jadot, moi je retiens aussi cette espèce de chantage à l'emploi qui est encore plus fort et encore plus présent dans ces territoires qui connaissent des vraies situations et démographiques et économiques extrêmement difficiles. Et c'est vrai qu'en Guyane, par exemple, il y a énormément de jeunes chômeurs et de chômeurs d'une manière générale. Donc on fait miroiter ça. Alors nous, au WWF, on n'est pas contre le développement économique. Et donc on a fait faire une étude indépendante qui nous prouve, par A plus B, que l'exploitation minière, c'est la dernière des activités économiques en termes de retombées sur l'économie locale. La première, c'est l'agriculture, mais on a aussi la pêche, on a aussi les énergies renouvelables, on a aussi l'exploitation de la forêt dans le bon sens. Par exemple, on parlait de ce trésor de biodiversité. Qui sait ce qu'aujourd'hui, ces plantes renferment peut-être des molécules qui vont nous soigner, des molécules à partir desquelles on va pouvoir trouver un certain nombre de mécanismes divers et variés qui vont nous aider dans différentes tâches que nous souhaitons accomplir. Donc il y a un potentiel et il faut bien sûr exploiter ce potentiel, mais d'une manière respectueuse, de manière à ne pas dilapider ce potentiel en l'exploitant et à le garder non seulement pour les générations futures, mais même pour notre génération.
Hilaria Casillo, alors on va progresser bien sûr dans le dossier, comprendre ce que propose le consortium, ce qu'il en est effectivement de la réalité sur le terrain, et puis aussi la copie revue. On parle d'un consortium, donc précisément Pierre Paris, qui est président de la compagnie Montagne d'Or, une société de droit français, mais les actionnaires sont russes avec Nordgold, et les Canadiens, Columbus Gold, c'est ça. L'un prépare le terrain, les Canadiens, et l'autre va exploiter. Les Russes.
Oui.
La France n'a pas imaginé mettre en place ou faire un appel d'offres peut-être à des sociétés françaises. On n'en a pas la connaissance ou la capacité ou la technique.
Alors la question que vous posez est venue lors du débat public qui s'est déroulé justement de 7 mars au 7 juillet sous l'égide de la CNDP, donc de la Commission nationale du débat public, qui est une autorité indépendante qui a justement la tâche de veiller au respect du droit à l'information et à la participation des citoyens concernant les projets qui ont un impact non négligeable sur l'environnement. Donc on est plein dans le cadre de compétences de la CNDP. Donc ce débat a fait émerger tout un tas d'arguments justement au contraire, disons, à ce projet, mais pas que. Donc ça a été très intéressant parce qu'on a un peu deux familles, je dirais, d'opposition à ce projet. Une qui remet en question le modèle de développement de société, justement, qui est véhiculé par ce projet. Et l'autre famille d'opposition qui se concentre plutôt sur le projet lui-même, justement la question que vous posez, sa matrice, je dirais, forêt française. Le fait de remettre en question la taille, la méga taille, l'échelle industrielle de l'exploitation de l'or, et qui pose la question, si l'exploitation de l'or doit être la base économique de la Guyane, à quelles conditions? La place des pouvoirs publics, quel type de soutenabilité, etc. Mais donc, ces deux familles d'arguments ont été particulièrement présentes lors du débat public qui a eu lieu en Guyane.
Martine Valou.
Est-ce qu'il y a eu des questions? Est-ce que vous avez senti que l'orpaillage illégal ou bien les mines qui existent déjà, je crois qu'il y a à peu près une à deux tonnes d'or produites légalement en Guyane, l'exemple surtout des chantiers illégaux qui répandent du cyanure partout, et que, dont souffrent les populations qui vivent dans la forêt. Est-ce que cet exemple-là, selon vous, est-ce qu'il est ressorti? Est-ce qu'il a été mis en évidence ou pas?
Oui, pas que selon moi, selon la commission particulière qui a été nommée, qui a géré le débat public sur place, et aussi dans le bilan qui a été dressé par la CNDP, cette question a été pointée. Donc cette question est venue sur la table lors du débat public, l'orpaillage illégal, quelle place? Selon la maîtrise d'ouvrage, c'était l'occasion de ce projet pour justement récupérer cet orpaillage, enfin faire face, donner une réponse, on va dire, à l'orpaillage illégal. Donc la question est venue sur la table, mais pas que c'est là. Le rôle de l'État, le respect des populations autochtones, les risques environnementaux, les risques liés à au cyanure, etc., au stockage, la question des infrastructures, aussi de l'autonomie énergétique du projet.
Il faut préciser donc pour les auditeurs que ce débat public qui a pu être s'est déroulé de mars à juillet sur place en Guyane et également sur Internet. 1500 personnes y ont assisté, il y avait des ateliers, des réunions, on compte plus de 5900 visites sur la plateforme participative, 232 avis, 211 questions, 39 contributions, 16 cahiers d'acteurs, en tout cas, important compte tenu du lieu géographique. Je vous propose juste de partir à nouveau dans ces sons qui ont été diffusés en avril dernier, le 8 avril 2018. Voici ce qu'on pouvait entendre sur France Info concernant justement le côté un peu houleux de ces débats.
Plus que jamais, le projet Montagne d'Or divise. Des opposants qui s'enchaînent au micro et une organisation très vite débordée par les événements.
Il n'y a aucun problème, on sera là. C'est notre territoire. S'il vous plaît.
La commission décide d'arrêter les discussions, mais les tensions vont continuer. Une bagarre a failli éclater. Les forces de l'ordre sont obligées d'intervenir.
Nous sommes guyanais par le sang versé. Et ça, le français est en train d'organiser une division.
Là, c'est la division.
Hilaria Casillo, est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde avait pu s'exprimer lors de ces débats?
Alors oui, surtout l'opposition. Mais il y a souvent, c'est pas la première fois qu'on le constate dans les débats publics, un mécanisme de auto-exclusion. Vous savez, souvent on dit que lors des débats publics, il faut aller chercher ce qu'on appelle, dans le jargon, les publics faibles, ceux qui ont moins la possibilité de s'exprimer ou qui sont loin des lieux de décision, mais qui sont les plus impactés des projets concernés. Mais on oublie souvent qu'il y a aussi un autre type de public qui a l'habitude de ne pas être là, c'est les publics forts, les acteurs économiques qui, on a dû le constater avec regret, ont aussi des fois ignoré.
Concrètement, le maître d'ouvrage et les pouvoirs publics, c'est ça?
Le maître d'ouvrage, finalement, était là, même si, au départ, il n'était pas convaincu par la pertinence de ce type de dispositif de débat public. Ils étaient partis plutôt sur un autre dispositif de concertation. Et les collectivités territoriales aussi, qui avançaient comme argument le fait que c'était un débat guyanais et que c'était à eux de le porter. Mais toujours est-il que la participation au débat a été un peu faible de ce côté-là. Et aussi, les personnes qui étaient plutôt favorables au projet se sont peu exprimées pour tout un tas de raisons, parce que c'est vrai que quand vous êtes dans une réunion publique et vous avez la plupart du public qui est contre, donc vous avez un peu du mal de fois à prendre la parole en vous sentant un peu toute seule à défendre le projet, donc on a un peu eu des difficultés à faire émerger le point de vue de ceux qui étaient plutôt favorables, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans les débats qui portent sur des projets particulièrement conflictuels, on a un peu ces points de vue très, très tranchés avec une opposition qui est plus là par rapport à ceux qui soutiennent le projet. Mais tous les points de vue, de manière ou d'une autre, que ce soit en présentiel, donc dans les débats sur le terrain ou sur Internet, a pu s'exprimer.
Isabelle Autissier, est-ce qu'un tel consortium, avec une exploitation légale de cet or, peut effectivement permettre de lutter contre l'orpaillage artisanal et illégal?
Alors, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu et qui n'a pas du tout de pertinence parce qu'on n'est absolument pas sur le même registre. D'abord, c'est pas le même or. L'or que va chercher Montagne d'Or, c'est un or profond qui demande une exploitation industrielle, donc qui de toute façon n'est pas à la portée des petits orpailleurs, qu'ils soient légaux ou illégaux. D'autre part, ça se déroule pas au même endroit. puisque l'orpaillage illégal a lieu malheureusement dans une zone qui est en grande partie un parc national, mais pas du tout dans le même endroit, pour des questions de facilité ensuite de fuite de cet or vers les pays proches. Donc ça ne changera rien. Simplement, ça risque en plus de rajouter, puisqu'au bout d'un moment, on ne saura plus d'où vient l'or, donc de rajouter une possibilité de trafic. Et puis, on l'a vu dans beaucoup de pays également, souvent une mine légale génère une activité illégale autour d'elle. Génère bien sûr de la corruption, de l'insécurité, des trafics en tout genre, hein, puisque ça c'est la réalité en général dans les exploitations minières, et on le voit en Afrique par exemple où Norgold exploite également des mines, et souvent ça génère en plus de l'or illégal. Donc là je crois qu'on a tout faux de penser que ça pourrait un tant soit peu limiter. Il faut lutter contre l'or illégal, il faut travailler avec les exploitations légales pour qu'elles aient un impact beaucoup moins important qu'elles ne l'ont actuellement, mais ça, il y a des moyens pour le faire, d'un côté comme de l'autre. Par contre, c'est pas du tout en faisant ce méga projet qu'on va changer quelque chose.
Martine Valo, les retombées économiques et sociales annoncées quand même par le consortium, 3750 emplois à peu près directs et indirects dans une région où le chômage, donc on l'a dit, atteint 20% et même 30 à 40% pour les jeunes, les moins de 25 ans, des retombées économiques promises sur tout le territoire, 420 millions de taxes et d'impôts, 3 milliards d'euros de retombées directes et induites pour le territoire de la France, selon Pierre Paris, donc le président du consortium. Ce consortium-là, il exploite notamment en Guinée, et vous avez une connaissance en tant que journaliste du Monde de ce terrain-là.
Christophe Châtelot, précisément, est allé faire un reportage en Guinée il y a très peu de temps dans la mine Nordgold d'un village qui s'appelle Carrefour. Et il montre très bien que d'une part, 90% des salariés de cette mine d'or ne sont pas du tout des gens guinéens, en tout cas pas de ce coin-là. Il montre que les gens étaient obligés de partir, qu'ils ne peuvent plus rien planter à cause du cyanure, que l'eau est polluée, etc. etc. Je pense qu'il faut bien expliquer que quand on parle de mine, de cette mine-là, ce projet-là, ce sont des mines gigantesques. Celle-là est à ciel ouvert. Le projet, c'est 54 millions de tonnes de minerais qui vont être bougées. Et j'imagine qu'en Guyane, on a aussi en tête les exemples d'exploitation minière avec des accidents terribles au Brésil, notamment. Je pense au fleuve Rio Dolce qui a été pollué. Enfin, d'une part, des barrages qui ont cédé et des déchets miniers qui se sont répandus comme une sorte de tsunami de déchets toxiques. Il y a eu 19 morts, des villages qui ont été totalement rayés de la carte. Et à des centaines de kilomètres de là, on est arrivé jusqu'à la mer. Aujourd'hui, on ne peut plus pêcher.
Et on parle de plusieurs milliards de réparations. D'ailleurs, on est dans des sommes, effectivement.
Il faut vraiment imaginer des chantiers totalement gigantesques pour pouvoir comprendre cet émoi autour de ce projet.
Je propose d'écouter quand même la parole de Pierre Paris. C'était sur France Inter dans l'émission Samedi Investigation le 13 octobre 2018. Dans un reportage de Philippe Reltien, voici ce qu'il disait sur les garanties assurées.
Je suis président de cette société de droit français et donc nous sommes respectueux de la réglementation française. Donc dans ce cadre-là, nous avons des règles strictes pour ce qui est de l'embauche. Nous pouvons embaucher que des personnes qui sont légalement sur le territoire. Et nous sommes engagés à plusieurs reprises à avoir plus de 90% d'emplois locaux sur ce projet.
Isabelle Autissier, une réaction au propos de Pierre Paris.
Oui, c'est pas du tout interdit à une société française d'embaucher des salariés étrangers, que je sache. Et quand on considère que ces salariés étrangers coûtent moins cher parce que on peut payer moins de taxes, enfin je sais pas, en France métropolitaine on voit ça tous les jours, je vois pas pourquoi on le verrait pas en Guyane. Et encore une fois, les exemples qu'on a de ces mêmes sociétés, des agissements. Moi je voudrais aussi revenir sur un point qui me paraît important. Quand ils font des projections économiques avec ces millions, milliards, ou que sais-je de retombées, ils se placent toujours dans la configuration la meilleure du point de vue du cours de l'or et la meilleure du point de vue du taux de change euro-dollar. Il suffit qu'il y ait un peu de volatilité, et Dieu sait qu'il y en a sur le cours de l'or et sur aussi le change euro-dollar, pour que ce taux d'exploitation soit beaucoup moins intéressant. Qu'est-ce qu'on fait en général quand on gagne un peu moins d'argent? On réduit les coûts, et où est-ce qu'on les réduit en général? Malheureusement, sur les questions de sécurité, parce que tout va bien. Donc j'attire quand même beaucoup aussi la sonnette d'alarme sur ce mirage. Nous, quand on a fait le calcul de ce qu'ils disent qu'ils vont reverser à la collectivité de Guyane, en 12 ans, ça représente l'équivalent de la construction du dernier lycée en date qui a été fait en Guyane. Donc, un risque environnemental, un risque sanitaire, un risque humain, un investissement de centaines de millions de notre argent via les impôts et via donc les subventions, Moi, je préférais qu'on construise les lycées directement et on pourrait en construire plus. Et
qu'on construise peut-être aussi des routes ou qu'on installe l'électricité dans certaines zones de Guyane qui n'en sont pas...
Renouvelables en plus, puisqu'on sait faire maintenant.
C'est ça. Hilaria Casillo, vous vouliez réagir?
Oui, sur le fait que le maître d'ouvrage a envoyé à la CNDP et à la presse la décision suite au débat public. Donc ça, c'est désormais public. Donc les enseignements qu'il va retirer de ce débat public. Donc ce qu'il retient en termes de gestion des risques, etc. Donc on voit que voilà, le projet ne sort pas, substantiellement modifié. Donc il déclare un peu une autosuffisance énergétique hein, quant à la question de l'approvisionnement, donc plutôt les renouvelables, c'est ce que déclare le maître d'ouvrage, le fuel, etc.
Oui, parce qu'à l'origine, il faut préciser qu'il était question de construire une ligne électrique de 90 000 volts, pas forcément de produire une électricité renouvelable. Mmh. Mais maintenant, sera produite sur place.
Oui, et il paraît que ça va être du mixte renouvelable et fuel. Donc on ne sait pas très bien ce que ça va être.
Solaire et un peu au gazole, voilà, c'est ce qui a été annoncé. Oui. Hilaria Casillo, allez-y.
Et par ailleurs, ils disent, voilà, concernant la gestion des risques, ils annoncent tout un tas de mesures, mais disons qu'ils vont de soi, d'une certaine manière, parce que bien évidemment qu'on doit gérer les risques. Et surtout, il n'y a aucune réponse à apporter sur la question de la libération des métaux lourds. Donc, qui était un point quand même qui avait été souligné dans le compte-rendu de la commission particulière présidée par Roland Pédé et aussi dans le bilan. Donc, sur cela, nous n'avons pas de réponse.
Alors, justement, on va aborder ces questions-là de risque de pollution et de risque aussi pour la santé des populations locales. Je vous propose d'écouter tout d'abord deux reportages. Celui de Véronique Reberotte, l'interview de Michel Dubrouillet, secrétaire général de Guyane Écologie et porte-parole de Hors de Question. Et puis ensuite, on entendra les propos de Pierre Paris sur ce même thème, c'est-à-dire sur la question du cyanure. Il s'exprimait dans l'émission Grand Reportage du 30 novembre sur France Culture.
Le transport des galettes de cyanure qui deviennent dangereuses avec l'amalgame qui est fait avec l'eau peut être quelque part un gros problème en cas d'accident des camions qui vont transporter sur une piste de 120 km toutes ces galettes pour aller vers l'usine.
Qu'on comprenne bien, le cyanure serait transporté, ça ce serait une garantie de moins d'accidents en version solide, c'est ça?
Voilà.
Donc si ça se renverse sur les pistes, si le camion se renverse, pas de problème.
Ouais. C'est ce qu'ils nous disent, que ce sera transporté dans des camions sécurisés, spéciaux, avec des chauffeurs aguerris et tout ce qu'il faudra. Il n'en demeure pas moins que le risque zéro n'existe pas et que si ces galettes se répartissent, on est dans un pays où le taux d'humidité est relativement fort, plus de 90%, nous sommes dans des forêts humides. Or, ils vont traverser la forêt pour arriver jusqu'à leur site. Et donc, on voit bien que s'il y avait un accident et si ces galettes se répartissaient, elles seraient automatiquement en contact avec l'eau et créeraient donc ce drainage miliacide avec tous les métaux qui sont dans le sol guyanais.
Première réaction sur ce reportage, propos donc des antis sur place. Ils ont raison, ils ont tort.
De toute façon... La Commission européenne est sur la voie de faire interdire le cyanure, l'utilisation du cyanure dans ce genre d'exploitation. Il y a un appel d'un certain nombre de députés français pour également faire interdire le cyanure dans ce genre d'exploitation. Enfin, le cyanure, voilà, tout le monde sait bien ce que ça peut représenter, même à quelques microgrammes. Donc, on n'est pas en train de jouer avec quelque chose d'anodin. Et puis, il y a aussi la question, après, des bouts, de la rétention, ensuite, de ce cyanure qui a été utilisé. Ça a été dit par le reportage. On est dans la forêt équatoriale, il y a des trombes d'eau. On n'est pas dans une nature qu'on peut facilement apprivoiser, encadrer et sécuriser. C'est pas vrai. On est absolument à la merci du moment où il y aura des inondations peut-être terribles, de moments en plus avec le réchauffement climatique, tout ça va être quand même assez perturbé. Donc je crois que là, on joue vraiment avec le feu.
Deux fois, le Parlement européen a voté pour la fin de l'usage du cyanure dans le secteur minier, mais sans succès jusqu'à présent.
Alors qu'on a d'autres méthodes. Hein. Il existe d'autres méthodes que ça, mais elles sont un petit peu plus chères, voyez-vous.
On écoute la parole de Pierre Paris.
Il est important de rappeler un point important. Le cyanure n'est pas le mercure. Aujourd'hui, ce territoire souffre malheureusement d'un usage historique du mercure, qui malheureusement perdure avec l'activité illégale par les exploitants illégaux, qui, eux, déforestent sans contrôle, exportent l'or en dehors des frontières du territoire et surtout utilisent le mercure. Mercure qui est bioaccumulable, c'est-à-dire qu'il va s'accumuler dans la chaîne alimentaire et va contaminer les poissons qui seront consommés par la population et qui donc, à terme, contaminent la population. C'est un fait, c'est une réalité. Le cyanure, lui, au contraire, est biodégradable. C'est un produit qui, dans l'environnement, se détruit naturellement avec les bactéries, l'oxygène et le soleil. Donc, on passerait d'un produit qui a été utilisé historiquement, qui a des impacts importants, vers un produit qui, bien utilisé, apporte des garanties, justement, pour éviter toute contamination ou surcontamination des cours d'eau ou de l'environnement, et puis surtout, qui peut être maîtrisé.
Voilà, c'est une mauvaise plaisanterie. Oui. C'est une mauvaise plaisanterie parce que c'est l'un plus l'autre. Hein. De toute façon, ça ne fera pas diminuer d'un gramme ce qui se passe avec le mercure. Par contre, on va rajouter du cyanure qui peut-être un jour se dégradera, mais en attendant, avant de se dégrader, il est sacrément toxique. Donc, il peut produire des effets dans des quantités quand même, c'est considérable. Quoi. Et encore, on ne parle pas de tout ce que la mine va faire ressurgir comme métaux qui, pour le moment, sont accumulés dans les profondeurs de la Terre, puisqu'il s'agit de miniers profonds, et qui vont ressurgir à cette occasion, et qui sont également des métaux toxiques pour l'environnement et pour les hommes.
Hilaria Casillo, sur ce thème-là
Justement, le débat fait ressortir cette question des métaux lourds, parce que la roche qui est extraite, les roches extraites contiennent tous ces métaux lourds, que eux, justement, ne se biodégradent pas. Et donc, la question de pose, parce que ça pose des risques sanitaires pour l'environnement, pour les humains, et c'est une question qui est revenue souvent. Les craintes ont été bien là, les questions relatives aux risques sur la santé et sur l'environnement ont été pointées, mais comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas eu beaucoup de réponses dans la décision de maître d'ouvrage qui devrait détailler les enseignements qu'il tire et les réponses qu'il donne aux questions posées lors du débat public.
Oui, parce que là, en étant un peu contraint de revoir la copie sur demande du ministre de l'Environnement sur la question du cyanure, je crois qu'ils ont prévu d'utiliser donc ce cyanure, alors en circuit fermé c'était prévu dès le départ, mais d'être en dessous des normes.
Oui, non, mais après, c'est toujours pareil. C'est vous inquiétez pas, braves gens, dormez en paix. Nous avons les meilleures technologies, nous sommes très, etc. Ce qu'ils oublient de dire aussi, c'est que le jour où il y a une catastrophe sanitaire environnementale, qui est-ce qui va payer? Les populations, d'abord. Et on l'a vu dans certains territoires français où il y a des exploitations de mines d'or. Les gens, aujourd'hui, des dizaines d'années après la fermeture des mines, continuent à avoir des taux de cancer liés à la remontée de ces métaux, extraordinairement important par rapport à l'ensemble du territoire français. Donc, on paye sur le long terme, en plus.
Martine Vallot, ça pose de toute façon aussi toute cette question du code minier. Hein, c'est-à-dire, on a quand même le sentiment que ce monde-là est assez opaque.
Oui, ce monde-là est assez extra droit environnemental. Je voulais juste dire que sur le territoire français, enfin, tout ce qu'on dit là me fait beaucoup penser au bout rouge...
De Gardanne.
Alors, il n'y a plus de boue, mais il y a les liquides qui continuent à être déversés en Méditerranée avec au moins 7 ou 8 taux de métaux lourds qui sont dépassés par rapport aux normes, avec l'autorisation du préfet. Bon, voilà, ça c'était un petit aparté, mais il reste beaucoup de mines en France. Au journal, on reçoit beaucoup d'appels qui, bien après la fermeture de la mine, quand personne n'est venu dépolluer, parce qu'en fait on ne sait pas du tout comment dépolluer, on se rend compte qu'il y a des tas de problèmes de pollution et il y en a énormément. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler.
Oui, parce que sur le territoire français, les projets miniers ont été abandonnés les uns après les autres. D'ailleurs, pour des problèmes environnementaux et problèmes de santé publique.
Il y en a encore. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des oppositions des populations extrêmement fortes qui font souvent, d'ailleurs, reculer les mines. Oui. Je trouve que c'est vraiment une question stratégique, cette question des mines. Évidemment, on a tous des smartphones, par exemple, donc on a tous besoin, dans un smartphone, il y a je ne sais pas combien, un tout petit peu d'or. Enfin, bon, voilà. Et bien, ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, par exemple, un travail américain a prouvé que ça coûte 24 fois moins cher d'aller rechercher un gramme d'or en recyclant nos téléphones, nos ordinateurs, etc., que d'aller les exploiter dans une mine. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser aussi ces questions-là. Nous avons déjà mis en circulation beaucoup de matériaux, beaucoup de produits. Donc, la question est peut-être plus...
Sur
le recyclage et la réutilisation, qui, en plus, ouvre là, en termes d'emploi, en termes d'ingénierie, de développement économique, de développement technologique, des vraies perspectives.
Hilaria Casillo, est-ce que c'est la première fois qu'un projet est appelé à évoluer comme ça à la suite d'un débat public?
Alors, en fait, le débat public a vocation à montrer les conditions de faisabilité sociale. Et je dis bien faisabilité, non pas acceptabilité sociale des projets ou des politiques publiques. Donc on est là vraiment pour faire en sorte que les citoyens soient informés sur les caractéristiques, les coûts et les impacts de ces projets et puissent s'exprimer tout d'abord sur l'opportunité, non seulement comment par exemple, dans le cas échéant, la mine devrait se faire, mais est-ce qu'elle doit se faire ou pas? Et en cela, il a accompli quand même ses promesses de débat public, parce que, comme je vous disais en ouverture, il y a toute une famille d'opposition qui a pointé la question vraiment de l'opportunité de ce projet. Et les règles de débat public font que systématiquement, le décideur doit rendre compte de ce qui se dit, ce qui se passe dans un débat public. Donc, 3 mois après la publication du bilan de la part de la Commission nationale du débat public, que je répète, est une autorité indépendante et ne se prononce pas sur le bien fondé des projets. Elle est là pour agencer la discussion citoyenne autour des projets. Donc, 3 mois après la sortie de ce bilan, le maître d'ouvrage est tenu par la loi à dire ce qu'il retire en termes d'enseignement. C'est une forme de reddition des comptes, si vous voulez. Il n'est pas tenu à s'en tenir, mais il a l'obligation de motiver et de dire ce qu'il prend et ce qu'il ne prend pas, et surtout pourquoi il le fait, il va dans le sens de ce qui est ressorti dans le débat public. Mais sachez que la plupart des projets soumis à débat public sortent profondément modifiés suite à un débat public. Donc il y a quand même un impact du débat. Il y a en partie des projets qui continuent sans aucune modification, et une toute petite partie qui est abandonnée.
Nous allons aborder dans un instant justement la question aussi de ce probable ou possible positionnement du gouvernement, enfin, qui se fait attendre, mais bien évidemment qui arrivera à un moment ou à un autre, et puis les autres solutions qui auraient pu ou qui pourraient à terme être développées en Guyane. Mais auparavant, je propose d'écouter votre choix musical, Ilaria Casillo. Vous avez choisi Enzo Avitabile et Botari, et la chanson
Salva Momun. Donc c'est Sauvons le monde.
Que vous écoutez souvent, on imagine.
Un peu.
On l'écoute. De cause à effet, c'est la suite de notre émission sur France Culture consacrée aujourd'hui à la Montagne d'Or, ce projet de mine d'or à ciel ouvert en Guyane, un dossier qui suscite discorde et tensions et sur lequel le ministre de l'Environnement François de Rugy devrait se prononcer d'ici la fin de l'année. Avec nous pour en discuter Isabelle Autissier, navigatrice, écrivaine, présidente du WWF France, Ilaria Casillo, vice-présidente de la Commission nationale du débat public, et Martine Vallot, journaliste des pages Planète Science du journal Le Monde. Mais avant de continuer sur ce terrain houleux, miné, on peut le dire, je vous propose d'écouter tout de suite la revue de presse Environnement. Quelques nouvelles glanées cette semaine sur le front de l'environnement, et tout d'abord cette étude américaine publiée mardi dans la revue Human Reproduction et qui fait le lien entre perturbateurs endocriniens et puberté précoce. Deux chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley se sont intéressés à des substances présentes dans des désodorisants d'intérieur ou des produits d'hygiène et de soins corporels. Parmi les 9 molécules étudiées, 3 présentent des associations marquées avec l'irruption de la puberté des petites filles. C'est à lire dans l'article de Stéphane Foucard sur lemonde.fr. Et côté souffrance animale, une nouvelle affaire, celle des ânes élevés sans considération et tués dans des conditions inhumaines pour leur peau qui se vend à prix d'or pour alimenter le marché asiatique. Un trafic aussi violent que celui de l'ivoire, mais invisible, et qui a lieu dans les pays d'Afrique. Un scandale dénoncé grâce au National Geographic avec en ligne de mire la médecine traditionnelle chinoise qui attribue à certains composants de la peau des ânes des propriétés thérapeutiques exceptionnelles. C'est à lire sur le site de La Relève et la Peste.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Et qui remporte la palme du moins de notre sélection cette semaine, c'est notre système alimentaire, dénoncé par 130 académies des sciences et médecines et réunis dans l'Interacadémie Partnership dans un rapport publié mercredi 28 novembre. Une planète de plus en plus obèse, un climat toujours plus déréglé, le système agroalimentaire fait résolument fausse route selon elle. C'est à lire sur le site du journal de l'environnement. Et le plus de la semaine revient à l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages, qui agit pour la protection de la faune et de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel. C'est une association indépendante, reconnue d'utilité publique en 2008, et elle a lancé un formidable projet, celui de racheter un site isolé au fond d'un vallon dans le massif du Vercors pour en faire une réserve pour la vie sauvage, redonner aux loups, aux aigles, aux cerfs, à la faune et à la flore sauvage le droit d'exister et de s'étendre librement. C'est le projet Vercors Vie Sauvage, mais cette association a encore besoin d'aide pour boucler le financement d'ici le 18 décembre prochain. Appel aux dons est lancé et vous trouverez toutes les informations et les liens sur le site de l'émission. Une réaction?
Je voulais juste revenir sur les ânes parce que je trouve que cette histoire est extraordinaire. Il se trouve que notre correspondante au Kenya nous a raconté ça, nous a raconté comment des abattoirs d'ânes se montent, comment les gens pleurent parce qu'ils avaient un âne, ils n'en ont plus, pour les aider dans les champs. Et la réponse d'un membre du gouvernement a été « Oui, mais les Chinois arrivent avec le portefeuille, il est difficile de leur dire non ».
Oui, c'est évidemment, on voit après les rhinocéros, les éléphants, enfin tous les animaux sauvages pratiquement, ils ont, paraît-il, une vertu aphrodisiaque ou que sais-je quoi. Donc c'est quand même un vrai problème, d'autant que les Chinois, tant mieux pour eux, arrivent à avoir un niveau de vie maintenant qui leur permet de se fournir dans ce genre de produits. Mais enfin là, il va quand même un jour falloir monter plus au créneau localement. C'est ce que WWF Chine essaye de faire d'ailleurs, pour discuter avec les gens qui prônent ces thérapeutiques et pour essayer quand même de faire émerger d'abord ces formes de supercherie et puis d'arrêter ces dévastations. Et puis un petit salut et un petit clin d'œil à l'ASPAS parce que c'est vraiment sympa leur projet, je crois qu'il faut les aider.
C'est entendu, direction à nouveau la Guyane. Je vous propose d'écouter le témoignage de Kadi, Johannes Eleonore, membre du collectif des Premières Nations. Et c'est toujours au micro de Véronique Robérotte.
Une méga mine située entre deux réserves biologiques intégrales ou sur ces territoires sacrés des peuples autochtones, car il y a des montagnes couronnées. Et sur ces montagnes couronnées, on a trouvé des urnes funéraires. Donc c'est l'histoire amérindienne, l'histoire autochtone, l'histoire des peuples premiers de Guyane qui sera détruite si jamais ce projet se met en place. Ils disent qu'ils vont préserver, mais comment peut-on préserver la nature avec 20 tonnes d'explosifs par jour et 10 tonnes de cyanure? Comment peut-on préserver l'environnement? Leur argument, c'est que ça va créer de l'emploi. Mais de l'emploi pour 12 ans, ce n'est pas un projet durable, alors que nous avons une telle biodiversité qu'on peut mettre en valeur. Et là, je pense que les élus, ça manque de courage politique pour mettre ça en place.
Isabelle Autissier, manque de courage politique. On revient à cette question aussi de manque d'imagination, peut-être sur le plan économique. Une économie verte est tout à fait à développer sur le terrain où là, ce serait un leurre.
Le WWF, il prône le fait qu'on se développe avec son environnement. La Guyane a une chance extraordinaire, elle a un environnement fabuleux. Je faisais allusion tout à l'heure à cette sorte de ressource moléculaire quasiment infinie que représentent les plantes et les animaux guyanais, mais aussi au tourisme, mais aussi à tout ce qui est l'utilisation raisonnée de la forêt.
L'agriculture aussi, parce que...
L'agriculture, bien sûr, la pêche.
J'ai vu que seuls 20% de l'alimentation est produite sur place.
Bien sûr, les ressources de la pêche. On a développé, par exemple, WWF avec les pêcheurs, des systèmes de pêche à la crevette avec des sorties de secours, entre guillemets, pour les tortues et pour les gros poissons et pour les requins. Et ça marche très bien. Donc, voilà, on peut être intelligent avec son milieu. On n'est pas, encore une fois, obligé de scier la branche sur laquelle on est assis pour parler de la forêt. C'est évidemment une comparaison. Et je crois que ce qui était dit là par les représentants des peuples amérindiens, il faut vraiment l'entendre. Est-ce que nous accepterions qu'on aille, je ne sais pas moi, dans un cimetière de la Première Guerre mondiale, faire une exploitation de je ne sais quoi en disant, mais non, mais les morts, vous inquiétez pas, on va les déménager, on les mettra ailleurs. Non, enfin, je crois qu'il faut respecter ces nations, il faut respecter leur environnement culturel. Et moi, je voudrais vraiment attirer l'attention que cette question de la montagne d'or est en train d'exacerber de manière terrible les communautés, avec les Amérindiens qui sont à plus de 90% contre cette exploitation et d'autres populations qui peuvent être un peu plus pour. Et que nous, ce qu'on entend, et moi j'étais en Guyane encore il y a un mois, c'est qu'aujourd'hui, les Amérindiens nous disent « on va prendre des armes ». C'est pas neutre et je suis pas pour. Et évidemment, la violence n'est jamais, jamais, jamais une solution. Mais il faut entendre qu'ils sont prêts à le faire. Et la Guyane n'a pas besoin de ça. Encore une fois, l'année dernière, la Guyane a explosé dans une violence qui était liée, oui, à une pauvreté, à des difficultés, etc. Donc il faut plutôt essayer de ressouder les communautés que de porter des projets qui vont les diviser.
Hilaria Casillo, sur ces questions-là, tensions réelles, terrains minés, explosifs sur place?
Oui, alors, lors de débats publics, on a pu constater en fait que la cartographie des arguments et des oppositions se recoupe avec une cartographie des fractures sociales qui est très présente. Donc, ce qui vient d'être évoqué, on a pu le constater parmi les différentes composantes sociales de la société guyanaise. Cette question-là a émergé, donc la manière différente, selon les différentes composantes, de percevoir, de vivre, de réagir à ce projet. Et donc c'était particulièrement frappant de voir comment ce clivage, ces fractures sociales sont intervenues dans le débat public et dans la manière dont ce projet a été réceptionné par la population.
Donc un débat qui a pu radicaliser des positions.
En tout cas, mis en exergue de manière très claire la superposition de ces deux cartographies, voilà, des fractures sociales. Voilà.
Martine Vallou.
Oui, moi je voulais revenir d'un mot sur la forêt. Il faut quand même souligner que ce gouvernement en interministériel a présenté, je crois que c'est le 14 novembre, une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Donc ça concerne plus du soja, du caoutchouc, etc., l'huile de palme. Mais à cette occasion, le gouvernement a rappelé qu'on avait détruit entre 1990 et 2015 en direction des pays développés presque 130 millions d'hectares de forêt. Donc la France est pionnière en se saisissant de ce sujet-là. Même si c'est un peu symbolique, en tout cas, elle avance. Comment est-ce qu'elle va justifier la destruction de centaines d'hectares de forêts primaires sur son sol? Je pense que ça va être difficile.
Isabelle Autissier, un double langage difficile à tenir.
Oui, bien sûr, parce que on a la même chose sur la biodiversité. Hein. On se veut, là aussi, les champions, alors les aires marines protégées, c'est très bien, et etc. Et en même temps, là, on voit un projet qui va impacter directement. Et encore une fois, moi, je tiens à souligner que c'est pas seulement sur le site lui-même, que le fait de mettre une route en service va ravager complètement tout sur des hectares et des hectares, non seulement l'endroit où il y aura la route, mais autour, parce que on va avoir du braconnage. Aujourd'hui, par exemple, le jaguar, c'est pareil, les peaux de jaguar commencent à se vendre très cher, et il commence à y avoir beaucoup de braconnage de jaguar. On va leur faire une route à ces gens-là. Sur la question climatique aussi, on se veut être les champions de faire la planète green again, là. Bon, très bien, mais là, on va encourager une exploitation qui va quand même, du point de vue de l'effet de serre et du point de vue de la consommation, même si on nous dit qu'il y aura une partie maintenant qui va être solaire, peut-être, je demande encore à voir, qui va aussi être considérablement émettrice de gaz à effet de serre, alors que la forêt, normalement, elle en absorbe.
Le projet ferait augmenter de 50% l'empreinte carbone de la Guyane.
Ah oui. Et je voudrais aussi rappeler que quand le président Macron était ministre et qu'il était allé en Guyane,
ministre de l'économie, il portait le projet d'ailleurs.
Il portait le projet, mais il avait dit, pour moi, il y a deux conditions. Une, que ce projet soit accepté par les populations locales, et deux, qu'il reste souterrain. Or, ces deux conditions sont absolument pas remplies, puisque après le débat public, 70%, 71% très exactement des Guyanais se prononcent contre ce projet. Et on est sur un projet qui reste à ciel ouvert, donc absolument pas souterrain. Donc j'espère que même là-dessus, on va aller au bout de la logique et dire que ce projet est un mauvais projet. Il faut avoir le courage de le dire.
L'agenda de ce dossier est difficile. Alors avec justement la reprise du dossier par le consortium, des améliorations proposées, c'est un dossier repoussé de 12 à 24 mois. Mais François de Rugy est censé prendre une décision d'ici la fin de l'année ? Hilaria Casillo.
Alors, c'est le maître d'ouvrage qui est tenu à donner une réponse suite au débat public et c'est la compagnie qui nous a saisis. Donc, officiellement, c'est la compagnie, le maître d'ouvrage. Donc, elle a respecté l'engagement légal de produire une réponse dans les temps convenus. Donc, c'est le maître d'ouvrage officiel, c'est la compagnie Montagne d'Or.
Mais le ministre de l'Environnement est censé prendre position.
Pas oui. Selon les procédures prévues par le code, parce que par le code de l'environnement qui régit donc le débat public, c'est le maître d'ouvrage qui saisit la CNDP. Formellement, la CNDP a été saisie par la compagnie Montagne d'Or.
Mais l'étape d'après, effectivement, puisque donc le maître d'ouvrage a fait une deuxième proposition qui est, de notre point de vue, varie à la marge par rapport à la première. Effectivement, c'est à l'État de trancher. C'est à l'État maintenant de dire s'il autorise cette exploitation ou non. Et de fait, on nous a promis une réponse avant la fin de l'année, et ça arrive à grands pas, et qu'à partir du moment où il y a une exposition très forte à ce projet, où on voit les risques environnementaux pour un investissement public, encore une fois, de plusieurs centaines de millions d'euros, bah, il vaut peut-être mieux mettre cet argent ailleurs dans le développement de la Guyane. C'est pour ça que le WWF a fait des propositions sur l'agriculture, sur la pêche, sur les énergies renouvelables, sur un certain nombre de sujets, où là, il serait, à notre sentiment, beaucoup plus pertinent d'investir ces centaines de millions que dans ce projet qui, au final, va quand même aller dans la poche des actionnaires de ces compagnies. Voilà, c'est le jeu de l'actionnariat. Mais enfin, moi, je préférerais voir cet argent qui, entre guillemets, permette à la Guyane d'asseoir une économie qui soit une économie internalisée, qui soit une économie des Guyanais. Et donc, c'est pas des projets comme ça, parachutés d'ailleurs, qui vont faire cette économie. C'est parce qu'on va donner les moyens aux Guyanais de monter leurs entreprises, de monter leur commerce, de monter à partir de leurs ressources à eux. C'est ça qui va faire l'économie de la Guyane.
Martine Valot.
Bon, je crois que nulle part dans le monde, les mines n'ont bonne presse, voilà. Et partout, on assiste à des problèmes environnementaux, mais elles illustrent aussi une bagarre autour des ressources qui est un peu partout dans le monde. La question peut se poser pour l'or. Est-ce qu'on a tant besoin d'or que ça, par ailleurs?
Alors, je crois que c'est, moi, les chiffres que j'ai, c'est 8% de l'or va à la technologie. Et le reste va
les bijoux, les lingots, mesdames et messieurs, etc. C'est ça.
Et les lingots dans les banques. Voilà. Donc c'est quand même un chiffre important, 8% seulement pour la technologie.
Hilaria Casillo.
C'est en effet un des arguments qui a été soulevé pendant le débat public. Où va cette or? Est-ce qu'on a vraiment besoin, en fait, de cette base économique-là? Vraiment, c'est quelque chose qui revient souvent dans les débats public avec beaucoup de force.
En un mot, qu'est-ce que la France a à en retirer concrètement? Comme c'est un consortium qui n'est pas français, il y a les Russes, les Canadiens. Quel intérêt pour un gouvernement français de soutenir une telle proposition alors qu'il n'exploite pas lui-même ou ne fait pas exploiter lui-même par des entreprises françaises? Je parle en retombée économique.
Oui, mais parce que le discours des promoteurs de la mine, à un moment donné, sur l'emploi, sur on va cotiser, il va y avoir des retombées économique, enfin on nous donne des chiffres, etc. Il a pu séduire et il continue à séduire d'ailleurs certains élus et un certain nombre de personnes en Guyane. Il y a encore des gens qui pensent que ça peut effectivement être une source. Mais vous l'avez dit très bien, nulle part dans le monde, les mines n'ont fait le bonheur des populations. Ça a toujours pratiquement été des occasions de crise, des occasions de conflits, de trafic, de prostitution, de violence et d'illégalité globalement. Et la Guyane a déjà des soucis de ce point de vue-là. Donc c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Je crois que, par exemple, il vaudrait mieux mettre l'argent s'il faut résoudre les questions de l'or. Si on dit qu'on a besoin d'or et que la France peut être un producteur d'or, peut-être. Mais à ce moment-là, allons travailler concrètement contre les mines illégales et avec les gens qui aujourd'hui sont des petits exploitants qui exploitent dans des assez mauvaises conditions. Travaillons avec eux pour qu'ils aient d'autres technologies, pour qu'ils aient des technologies après de restauration des forêts, etc. Mais n'allons pas chercher comme ça une espèce de projet énorme dont effectivement on n'a aujourd'hui pas vraiment besoin.
Travailler avec eux et développer en parallèle une économie verte viable sur ce terrain. Il faut rappeler que François de Rugy donc, a admis que le projet ne pouvait rester tel quel. Nicolas Hulot, en son temps, y était opposé, le traitant même de miroir aux alouettes. Alors, il faut avouer aussi que la Guyane n'en a pas fini d'être victime de ses richesses. L'entreprise pétrolière Total a été autorisée en octobre à explorer dans les eaux territoriales de la Guyane, et ce, pour le premier semestre 2019, Isabelle de Boutissier.
Oui, alors là, c'est un cas de figure évidemment un peu différent. En gros, dans l'état actuel de la situation, ils ont 6 mois pour trouver quelque chose. Donc nous, on croise les doigts, bien sûr, parce que d'abord, d'un point de vue climatique global, nous devons déjà, si nous ne voulons pas dépasser les 2 degrés, je vous le rappelle, laisser 80% de ce que nous avons déjà découvert là où il est. Donc ça n'est pas la peine d'aller en chercher de nouveau, puisque de toute façon, théoriquement, pour sauvegarder le climat et donc les conditions de vie de l'espèce humaine, il ne faut pas aller rechercher et brûler plus de pétrole. C'est quand même, à mon avis, de bonne raison. Deuxièmement, parce qu'on sait l'impact quand même que peuvent avoir ces exploitations, non seulement sur la vie marine, mais avec les risques environnementaux, et on l'a connu dans le golfe du Mexique et dans un certain nombre d'endroits. Donc on va voir ce qui se passe. De fait, ils se glissent dans le couloir étroit, puisque la France a décidé d'arrêter, mais à partir de 2040. Donc on va voir ce qui se passe.
S'ils découvrent des gisements ?
Alors ils auront l'autorisation d'exploiter.
Donc avec les risques effectivement de rejet de polluants en mer, hydrocarbures, bout de fourrage toxique, les effets du bruit sous-marin aussi, perforation par explosion sur des zones de biodiversité, hein, c'est à proximité d'un récif corallien unique.
Oui, qu'on vient de découvrir, qu'on a découvert il y a extrêmement peu de temps, et ce sont des récifs relativement rares en fait. Et aujourd'hui, on sait que les récifs coralliens, c'est l'endroit maritime où il y a le plus de biodiversité en termes de variété des espèces. Donc ce sont vraiment des écosystèmes extrêmement riches.
Et cet argument-là ne peut pas contrer le droit donné.
C'est un peu toujours pareil. On nous dit, vous inquiétez pas, on veille à tout, on fera ça bien, il n'y aura pas de soucis. C'est quand même toujours un petit peu les mêmes arguments.
Martine Vallon. Pas avec le code minier, qui est quand même un texte qui remonte à Napoléon et 1810, et qu'il n'est pas totalement au goût du jour pour ce qui est des critères environnementaux du moment.
Oui, et de cette question actuelle de réchauffement climatique. Mais pourquoi est-ce qu'on ne révise pas ce code minier ?
Alors, on l'a révisé des tas de fois, depuis au moins les années 90, mais ça n'a jamais abouti complètement. Donc, il y a beaucoup de projets d'avant-projets de loi, beaucoup de votes à l'Assemblée, puis au Sénat, mais ça n'a jamais vraiment abouti. Et la dernière tentative remonte au gouvernement précédent, sous Monsieur Macron, quand il était ministre de l'économie, et ça n'a pas abouti.
Hilaria Casillo, cette question de Total en Guyane, elle est venue sur le tapis dans les débats publics ?
Elle est venue parce que la commission a été saisie par des associations environnementales, non pas par Total. Voilà, la question se posait s'il devait nous saisir selon le code de l'environnement, donc passer par une procédure de débat public. Le fait est que Total a produit une analyse juridique selon laquelle il ne fallait pas nous saisir. Nous avons une lecture juridique différente de celle de Total. La CNDP a fait son analyse juridique et elle croit que Total aurait dû saisir la CNDP. Encore une fois, vous voyez, pour parler, là, le projet soumis à débat aurait été un puits. Mais si jamais on découvre que, voilà, qu'il y a quelque chose qui peut exploiter, après, le projet va s'élargir. Donc, à ce moment-là, ça aurait permis d'interroger justement l'opportunité. Est-ce que c'est pertinent ou pas de le faire, etc. Donc,
mais parce que le code de l'environnement prévoit qu'un projet industriel qui dépasse le seuil de 300 millions d'euros, oui, donc nécessite effectivement que la CNDP soit saisie. Mais là, Total a avancé un budget de 100 millions, oui, largement sous-estimé pour beaucoup, apparemment.
Oui, mais ça dépend ce que vous mettez dans la définition de projet. C'est là un peu que les visions juridiques divergent, parce que surtout après la réforme du dialogue environnemental, donc avec les ordonnances de 2016, la notion de projet est une notion un peu totale, donc qui prévoit les équipements, les infrastructures. Il faut avoir une vision complète de projet et intégrée, non pas un seul élément. Donc, bien évidemment, si vous prenez un seul élément, le coût est réduit. Mais nous, on a une vision justement qui est celle un peu de la dernière réforme, donc un projet dans son intégralité.
Isabelle Autissier.
Oui, moi je voudrais juste prendre un tout petit peu de champ et dire qu'on n'est plus au 19e siècle, vous l'aurez remarqué, on n'est plus au 20e siècle non plus. Et donc les choses changent, et en particulier du point de vue de l'implication des citoyens. Et on n'est plus à l'époque où on arrive avec n'importe quel projet, bon ou mauvais d'ailleurs, hein, c'est pas la question, en disant ben voilà, c'est comme ça, on va faire ça là, et puis c'est terminé. Non. Aujourd'hui, l'ensemble des citoyens, et c'est tant mieux, veulent être partie prenante de la décision. D'abord, veulent comprendre. Comprendre ce qui va se passer, comprendre ce qu'on leur propose, comprendre le bon et le moins bon, pouvoir apporter leurs interrogations, leurs angoisses, leurs enthousiasmes peut-être. Enfin voilà, les gens veulent participer. Et je pense que toutes les entreprises qui continuent à fonctionner en cherchant à imposer des choses, elles vont être au final perdantes. Parce que d'abord, elles créent une suspicion. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas discuter? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas donner les tenants et les aboutissants? Qu'est-ce que vous avez à cacher? Et je crois que ça, c'est très mauvais pour les entreprises. Si elles sont fières de leur projet, eh ben, c'est très bien qu'elles le partagent. Et à ce moment-là, elles emporteront l'adhésion des populations. Donc je pense qu'il faut vraiment changer de paradigme. Hein, on dit ça facilement aujourd'hui. Mais il faut arrêter de vouloir imposer les choses. Et il faut les partager. Il faut construire ensemble cet avenir que nous voulons ensemble.
Doit-on continuer d'exploiter les richesses sans limite? C'est cette question finalement qui se pose dans ce dossier qui peut devenir explosif. Réponse d'une Guyanaise. On retrouve Johannes Eleanor, dite Caddy, au micro de Véronique Rebérotte. Extrait du grand reportage diffusé sur France Culture le 30 novembre dernier.
Quand j'ai vu cette belle route-là, j'ai pensé à tous les villages qui n'ont pas de route potable.
Qu'il n'y a pas d'argent pour le faire.
Voilà, exactement. Donc, ce sont des laissés pour compte, mais par contre, on favorise des entreprises étrangères, on leur déroule le tapis rouge pour qu'ils puissent s'installer et venir avec leurs camions. On leur donne tout ce qu'il faut, mais nous, ils vont nous trouver là-bas. Nous sommes nombreux à être opposés à ce projet. C'est au président de la République de décider s'il veut ou non la guerre civile. S'il ne veut pas, il dira non à ce projet. S'il veut la guerre civile, il dira oui. Et alors là, ce sera dans la continuité des premiers colons qui sont venus, qui ont massacré les populations amérindiennes. Alors, ce sera peut-être le deuxième conquistador, M. Macron.
La Guyane n'est pas un gâteau que l'on peut se partager. Peuple dit la Guyane, faut se tirer, il ne faut pas décourager.
Emmanuel Macron, un conquistador, une réaction les unes et les autres avant qu'on se quitte sur ces propos de Caddy, hein. Johannes Eleanor, qui laisse présager quand même un terrain brûlant.
Oui, c'est ce
explosif.
Que je disais, il ne faut pas le souhaiter parce que la guerre n'est jamais une solution et la violence n'est jamais une solution. Il faut entendre que parfois les gens peuvent être à bout et il faut absolument intervenir avant, il faut absolument discuter, parler avant. Et quand un projet n'est vraiment pas acceptable, bien, je crois qu'il faut accepter justement de ne pas le mener au bout. Et franchement, la Guyane a d'autres atouts économiques à faire valoir qui seront beaucoup mieux partagés par les populations.
Hilaria Casillo.
Je pense que ce témoignage nous renseigne un peu sur ce qui nous disent un peu les conflits de la démocratie contemporaine. En fait, ce qui est pointé là, c'est un peu l'écart entre la décision légale et la décision légitime. Aujourd'hui, tout un tas d'opposants au projet pointent le fait que même si les procédures sont légales, on respecte un certain nombre de procédures, ce n'est pas pour autant que les décisions qui concernent les projets sont perçues comme légitimes. Et donc, il y a cet écart justement entre la décision légale et la décision légitime et qu'il faut absolument recoudre, et donc à travers des formes, comme ça a été dit, de débats publics qui visent justement à avoir des projets plus partagés et donc plus légitimes.
Martine Vallaud.
Juste souligner le fait que le niveau d'information est quelque chose qui a énormément changé et il n'y a pas de raison qu'en Guyane ce soit différent d'ailleurs. Et voilà.
Merci à toutes les trois et merci aussi à Véronique Rebérotte. Je vous propose notamment aussi d'écouter le magazine Grand Reportage de la rédaction de France Culture avec Aurélie Kiefer qui a été diffusé le 30 novembre dernier. À découvrir sur notre site et sur notre site, vous aurez aussi les liens vers le WWF, la CNDP et lemonde.fr. Et puis à l'approche des fêtes de fin d'année, allez, quelques conseils cadeaux à retrouver sur le site avec notamment le film Sans Adieu de Christophe Agou et dont nous vous avons déjà parlé cette année, mais il vient de sortir en DVD. Un regard touchant et magnifique magnifique de sensibilité sur un monde paysan qui disparaît. Et également les livres du photographe Vincent Munier avec l'écrivain voyageur Sylvain Tesson, Tibet minéral animal et Tibet promesse de l'invisible, des titres de ces livres, superbes voyages photographiques naturalistes et intimes au Tibet. Toutes les informations, bibliographies, les liens, vous les retrouverez sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Vous pouvez télécharger l'émission, ne vous en privez pas, réécouter à votre guise. Et puis aussi nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet, ou encore sur la page Facebook. Dimanche prochain, nous parlerons lobby et nous serons avec notamment la journaliste Stéphane Aurel. Et dans un instant, vous restez sur France Culture, bien sûr, suite de vos programmes avec l'émission Être et Savoir de Louise Touré.